Soucieux du moindre détail, il scrute tous les dossiers. Pour lui, l'actualité n'a aucun secret. Alexandre Dubé.
Aux États-Unis, Donald Trump, on le sait, souhaite avoir l'immunité présidentielle. Et là, la Cour suprême a entendu les arguments dans le dossier. Et Donald Trump en a remis une couche en disant « Non, non, mais vous savez, c'est pas pour moi que je fais ça, là. C'est pour ceux qui vont venir après moi. Mais c'est surtout pas pour mes intérêts à moi. » On en parle avec Stéphane Bureau. Bonjour, Stéphane.
Bonjour, Alexandre. Je me permets d'avoir quelques doutes là-dessus.
Monsieur Quelle âme Trump, charitable, hein?
Général. Oui, il se préoccupe en général aussi de ses intérêts, et très bien. Il est possible qu'il ait raison, que le jugement de la Cour suprême, quand il sera rendu, ait un impact sur les pouvoirs de la présidence. C'est d'ailleurs ce que dit un des juges, le juge Kavanaugh, qui l'a lui-même d'ailleurs nommé à la Cour suprême, qui expliquait hier que c'était tellement sérieux qu'il fallait prendre le temps d'aller au bout des délibérations, parce que justement, c'était potentiellement pour la Cour suprême un jugement historique qui allait établir des précédents et déterminer la marge présidentielle pour les générations à venir. Et je pense qu'il n'y a pas tort, parce que jamais avant, les juges de la Cour suprême avaient eu à réfléchir là-dessus. Donc, l'enjeu est sérieux. Ce qu'on peut surtout déduire de ce qui s'est passé hier après les plaidoiries orales à la Cour suprême, puis ça, quand je dis ce qu'on peut déduire, c'est qu'il y a un certain nombre d'indices qui sont assez transparents, qui nous sont donnés par les questions posées par les juges. Alors, immédiatement, on va voir si un ou une juge est plutôt contre l'idée de ce qu'il y ait vraiment une immunité présidentielle ou si, au contraire, ça résonne auprès du juge. Puis, si on fait une mathématique rapide, on peut arriver à l'hypothèse qu'il y a une courte majorité des suprêmes qui sont plutôt sensibles à l'idée qu'il y aurait une forme de d'immunité présidentielle, 5 peut-être 6 juges. Évidemment, c'est un peu comme lire l'avenir dans les feuilles de thé. Mais à partir des questions, on arrive à quand même des suppositions qui sont à peu près pertinentes, sinon qui nous donnent des débuts de certitude. Donc, pas de jugement avant la fin du printemps, fin mai, juin, peut-être début juillet. Ce qui est à peu près certain, c'est que ça va rendre très compliqué le départ de ce procès criminel qui devait avoir lieu à Washington sur l'affaire du 6 janvier. Ça met beaucoup à mal le procureur spécial et la démonstration qu'il voulait faire, Monsieur Smith. Dans les circonstances, c'est donc une bonne nouvelle, si on veut, pour Donald Trump, parce qu'il semble y avoir effectivement quelque chose comme une immunité présidentielle, alors que la Cour d'appel avait catégoriquement rejeté l'idée. Les 3 juges avaient dit non, il n'y a rien qui ressemble à ça. Alors, est-ce qu'on va dire qu'il y a une immunité présidentielle, ça existe, ou on va simplement renvoyer à la juge qui préside le procès en lui disant, est-ce qu'il serait possible de faire l'arbitrage dans ce qui est reproché au président de ce qui relève des activités ou des décisions qu'il a prises à titre de président et de ce qu'il a choisi de faire à titre de citoyen. Et là, on comprend que ce qu'il aurait choisi de faire à titre de président pourrait potentiellement être couvert par l'immunité. Et le citoyen, Trump, lui, s'il y a des gestes qui peuvent lui être reprochés, ne serait pas couvert par cette immunité présidentielle. Mais ça renvoie justement à la stratégie du procureur spécial qui, lui, je pense, espérait un coup de circuit et avait décidé de montrer du doigt Donald Trump en sa qualité de président. C'est-à-dire, quand il était président, il s'est permis de faire des choses pour renverser, par exemple, le cours de la démocratie, pour renverser les résultats inscrits, pas encore validés au Congrès, mais qui avaient vocation à devenir rapidement, et que c'est donc en sa qualité de président qu'il a commis des fautes. Peut-être qu'il aurait dû avoir, je dirais pas la discipline, je suis pas juriste, je me mettrai pas à faire un cours de morale à quelqu'un de beaucoup plus compétent que moi en ces matières, mais peut-être aurait-il dû choisir de s'attaquer à Donald Trump à titre de citoyen, non pas de président. Et ça risque d'avoir des conséquences. Il fallait qu'on estime qu'il y a quelque chose comme une immunité présidentielle. Ça risque pas, ça va avoir des conséquences en Géorgie, en Floride, parce que M. Trump va dire, écoutez, on m'a concédé à la Cour suprême qu'il y avait quelque chose qui ressemble à l'immunité présidentielle. Pas de raison que je sois embêté par vos procès et en Géorgie et en Floride. La seule certitude, je pense, c'est que avant les élections présidentielles, ce procès et probablement tous les autres n'auront pas lieu. De ce point de vue-là, c'est une victoire claire pour l'équipe de M. Trump. Mais je spécule, peut-être qu'il y aura un retournement, peut-être que dans 48 heures, les juges de la Cour suprême vont sortir en disant c'est réglé, il n'y a pas d'immunité présidentielle, puis ça donnerait le temps de mettre en place un procès. Sincèrement, si j'étais à Vegas, c'est pas là-dessus que je parierais. Ouais.
Décidément, Stéphane, ça a été une grosse journée sur le plan judiciaire parce que, bon... Il était un peu un des visages marquants du mouvement MeToo avec toutes sortes de...
Pas un peu.
Non, mais tu sais, Harvey Weinstein, ça a été un point de bascule. Tu sais, le nombre de dénonciations dont il a été, dont il a fait l'objet. Et là, voilà que le plus haut tribunal de l'État de New York invalide le jugement qui avait été rendu contre lui.
Oui, pour vice de procédure, les juges, et là c'est intéressant, c'est une décision aussi qui n'est pas à l'unanimité, c'est 5 juges contre 4 de ce tribunal d'appel le plus élevé des tribunaux dans l'État de New York, mais 3 femmes sur du côté de ceux et celles qui estiment qu'il y a eu vice de forme, que le juge qui présidait a fait des erreurs, que, par exemple, on a permis à un trop grand nombre de témoins d'être entendus alors que ces témoignages n'étaient pas directement liés à ce que l'on reprochait, pas directement liés aux accusations qui visaient Harvey Weinstein. Théoriquement, et on peut le comprendre, parce qu'il y avait, pour faire la preuve des comportements, l'idée d'établir des patterns, de parler de la personnalité du personnage et de dire que, dans le fond, ce qui était reproché à Harvey Weinstein était parfaitement lié à des comportements qui avaient été vus, qui avaient été rapportés ou sinon pas suffisamment rapportés depuis très longtemps. Or, les juges du plus haut tribunal disent, un instant, quand on est accusé, il faut faire la preuve que c'est de ces crimes précisément qu'on est non seulement coupable, mais que la démonstration pour cette culpabilité doit être faite sans l'ombre d'un doute. Et donc, on aurait donner la parole à de trop nombreux témoins qui venaient simplement corroborer, je reviens toujours à cette expression qui n'était pas idéale, mais un pattern, une approche. Et plus encore, les juges pensent que les conditions n'étaient pas réunies pour que M. Weinstein puisse aller témoigner à son propre procès parce qu'on donnait au procureur trop de marge de manœuvre pour retourner dans son passé, poser des questions, encore une fois, qui n'étaient pas directement liées aux accusations. Par exemple, est-ce qu'il est vrai, monsieur, qu'en troisième année, quelqu'un vous avait pris en flagrant délit de pincer les fesses d'une jeune camarade? Ce qui établirait que depuis toujours, il y avait des comportements qui étaient délictueux, qui étaient nauséabonds, disons les choses comme ça. Et les procureurs qui défendaient M. Weinstein, dans les circonstances, ont choisi de ne pas le faire entendre. Ça nous ramène peut-être aussi à l'affaire Trump, parce qu'il y a des liens qu'on peut faire. Alors, on dira, est-ce que c'est le même procès? Pas du tout. Mais sur la question du vice de procédure, est-ce qu'un jour on pourrait se retourner en disant ce procès qui a été instruit contre le président ou l'ancien président a été aussi le théâtre de vice de procédure? Est-ce que le juge aurait abusé de son autorité? C'est pas à moi de le dire, mais peut-être qu'une cour d'appel plus tard arrivera à ses certitudes, en fait, à ses conclusions. S'il fallait qu'il soit reconnu coupable. Parce que là, on est en face d'un personnage connu, influent, qui a de la puissance, des accusations qui sont liées à des affaires sexuelles, avec, là aussi, des prérogatives qui ont été données au procureur s'il décidait d'interroger Donald Trump, si Donald Trump choisissait de témoigner à son procès, des marges de manœuvre consenties par le juge extrêmes. Disent certains. D'autres vous diront, mais c'est le seul moyen de faire la démonstration de ce qu'encore une fois, il y a un pattern. Mais il y a un lien. Et c'est certainement pour M. Merchant, qui préside le procès, une espèce d'avertissement. Si vous voulez faire en sorte que les choses se déroulent comme vous le voulez, et s'il fallait qu'il soit reconnu coupable, assurez-vous que les bonnes conditions soient réunies. Sinon, potentiellement, ça sera invalidé plus tard. Et je pense qu'encore une fois, du point de vue de M. Trump et de son équipe, même si c'est pas lié, c'était pas franchement une mauvaise nouvelle hier. Puis elle est passée un peu inaperçue. Il y a tellement de choses dans l'actualité, alors que pendant des mois, sinon 2 ans, on n'entendait parler que de cette affaire Weinstein. Or, il est pas innocenté. On demande un nouveau procès. C'est quand même une nuance importante. Et pour l'instant, il est condamné à rester en prison puisqu'il a été reconnu coupable d'une autre affaire en Californie pour laquelle il purge, je pense, 16 ans de prison. Ouais.
Stéphane, le conflit israélo-palestinien, ça provoque vraiment de vives tensions sur les campus aux États-Unis. Est-ce qu'on est en train de vivre une véritable crise politique?
Je pense qu'il n'y a aucun doute que ça va avoir un impact politique sur la campagne. Ça a déjà commencé à avoir un impact sur la campagne. Ça me rappelle beaucoup les tensions, l'ébullition qu'on avait vues sur les campus universitaires américains au début des années 70, fin des années 60, quand on contestait, quand on protestait contre la guerre au Vietnam. Dans certains cas, ça avait été très violent. Kent State, des gardes nationaux qui avaient tiré sur des étudiants, il y avait eu des morts, alors on est très loin de ça. Mais c'est une histoire qui potentiellement pourrait nuire aux chances de M. Biden, parce que c'est beaucoup l'administration démocrate qui est montrée dans ce cas-ci, parce qu'on n'arrive pas suffisamment, on en a souvent parlé, à influencer le cours des choses à Gaza et en Israël. Évidemment, c'est pas M. Biden qui est président d'Israël, mais on reproche aux Américains de ne pas avoir suffisamment d'ascendant sur le gouvernement de M. Netanyahou. Mais ça pose surtout des questions extraordinairement intéressantes, parce que depuis quelques années, c'est la droite aux États-Unis, en France et un peu partout, au Québec, qui dénonce la censure sur un paquet de sujets, qui dit il n'est plus possible de questionner certaines choses, on ne peut plus, par exemple, sur les enjeux trans ou autre chose, poser des questions parce que c'est interdit et c'est un monopole de la parole qui est entre les mains, sinon au bout de la langue, des gens de gauche. Et alors aujourd'hui, ce qu'on découvre aux États-Unis et ailleurs, c'est vrai aussi en France, c'est que toute forme de protestation, de manifestation qui est un peu sympathique, sinon beaucoup sympathique à la Palestine, je dis pas au Hamas, à la Palestine, c'est inévitablement, sinon très souvent, associé à une forme d'antisémitisme. D'ailleurs, le premier ministre Netanyahou sur X avant-hier s'est fendu d'un long texte en disant il y a une dérive dangereuse aux États-Unis, les étudiants sont dans une montée antisémite. Or, je ne pense pas que de critiquer les politiques d'Israël par définition fasse de quelqu'un un antisémite. Est-ce qu'il y en a dans l'eau? Évidemment, et on peut les montrer du doigt, mais c'est très surprenant ce retournement. Puis on y reviendra la semaine prochaine parce que ça illustre en tout cas un malaise profond aux États-Unis, et pas juste aux États-Unis, je le répète, c'est vrai aussi en France, et le témoignage il y a 10 jours de la présidente de l'Université Columbia est d'une certaine manière à lever le cœur parce qu'elle a choisi on the spot devant les républicains et démocrates qui étaient en face d'elle et qui lui demandaient de rendre des comptes. Elle a littéralement pris une décision administrative et garoché sous l'autobus un professeur qui était montré du doigt par les politiques parce qu'il avait écrit un article qui donnait l'impression d'être trop pro-palestinien. C'est un professeur à l'université patenté qui enseigne depuis, je pense, dans son cas, 20-quelques années. Et quand on lui a demandé, mais est-ce que vous pouvez le laisser dans ses fonctions administratives? Elle a pris une décision devant les politiques. Ça me faisait penser au pire moment du mécartisme dans les années 50. Et évidemment, ça a engendré une réaction furieuse chez les professeurs de Columbia, chez les étudiants. On y reviendra parce que je pense qu'on n'a pas fini d'en entendre parler. Ça pourrait être un été chaud.
Tu faisais référence aux années 70, Stéphane. Il y a le grand patron de JP Morgan qui met en garde les marchés.
C'est intéressant, il y a effectivement un lien. Puis il parlait des mouvements de protestation sur les campus universitaires en disant est-ce qu'il y a un lien à faire entre ce que nous traversons comme période historique économique en ce moment et les années 70. Et lui référait davantage au risque de stagflation, c'est-à-dire de décroissance économique, sinon de crise économique, mais en même temps d'inflation entêtée, durable. Dans un cas comme les années 70, il y avait du chômage comme on n'en connaît pas aujourd'hui. Mais est-ce que ça pourrait arriver que le chômage se mette à monter et que pour autant, on puisse pas baisser les taux d'intérêt pour redoper nos économies parce que l'inflation serait persistante. On en parlait la semaine dernière. Là, c'est un des banquiers les plus influents qui, je pense, l'an dernier a fait 30 quelques millions de dollars à la tête de sa banque qui dit « faut faire gaffe ». On n'a plus de marge fiscale. L'inflation n'est pas un monstre terrassé. Ça risque d'être beaucoup plus durable que ce qu'on nous dit. Et on se retrouve peut-être dans un cas de figure où les marchés aussi sont plus fragiles qu'on ne le dit. Et encore une fois, c'est pas un homme de gauche, c'est pas un alarmiste, c'est un banquier qui a tout intérêt à nous vendre l'idée d'acheter des actions parce qu'ils font de l'argent comme ça, mais qui fait le lien avec une période très trouble de l'histoire américaine. En 1972, il y a beaucoup d'Américains qui se disaient « tout va bien, c'est super cool » et pourtant, on était devant un précipice qui a duré 8 ans en fait, jusqu'à l'arrivée de M. Reagan, jusqu'à la fin de la crise des otages en Iran. C'est 8 années extrêmement difficiles d'inflation, d'hyperinflation, de stagnation économique en même temps, où collectivement, les Américains, les Nord-Américains se sont appauvris. Parce qu'on est au bord de ça, je veux pas prophétiser quoi que ce soit, mais je dirais qu'effectivement, quand un banquier de sa trempe et qui n'a pas l'habitude d'être alarmiste en parle, je dis faisons gaffe.
Merci beaucoup, Stéphane.
C'est le fun, hein?